Lorsque vous allez chez le médecin, qu'est-ce que le médecin fait pour vous de base? J'ai un indice, hein, si jamais. Oui, il ausculte et il fait quoi comme auscultation de base? Attention, le cœur, les poumons, le dernier. C'est la température. Bon, c'est peut-être Covid. Là, il prend encore la pression artérielle. Donc, ça fait partie du cœur aussi, je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai qu'un bon médecin, en fait, sur le principe, même si vous venez juste pour faire peut-être une piqûre de rappel ou autre, normalement, il devrait vous faire, en fait, un petit check-up pour vérifier que tout fonctionne bien. Et c'est pour ça que le médecin, en fait, il vérifie que vos signes vitaux correspondent à ceux d'un corps sain. Pour ça, en fait, il connaît à peu près les normes. Par exemple, on sait que pour la tension artérielle, c'est quoi la bonne norme? Bon, ça... bon, heureusement qu'on a des médecins. Mais c'est vrai que ça dépend un peu des corps. Mais si par exemple vous n'avez qu'un 18, il va vous dire normalement tu devrais quand même être plus de 12, 13, ça serait mieux, quoi. Mais en fait, il compare en fait les signes vitaux d'un corps sain au vôtre. Et donc en fait, il y a des choses qui collent bien à d'autres ou peut-être ça nécessite de l'attention. Et je pense que c'est un peu la même chose parce que pour l'Église, parce que l'Église est présentée comme le corps de Christ. L'Église aussi devrait être à la hauteur de certaines normes de santé spirituelle. Et c'est pour ça que c'est intéressant de connaître ces normes de santé spirituelle, parce que ça va nous permettre à chacun de contribuer à notre mesure à ce que l'Église, elle reste en bonne santé et qu'elle grandisse en maturité. Le corps est formé de plusieurs membres, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se ressemblent. Il y a vraiment une multiplicité de membres, il y a des muscles, il y a des os, il y a des articulations, et tous sont différents, mais tous sont utiles et tous contribuent à ce que le corps fonctionne, avance. Et l'Église, c'est un peu la même chose. L'Église, elle est unie, mais sans uniformité. Mais par contre, tout va dans un même élan, et dans le même sens, et c'est ce que nous cherchons à vivre ensemble. Je pense que ça a été rappelé dans les chants, dans les prières, dans plein de choses qu'on a vécues ce matin. Et c'est pour ça que Jésus, il nous donne l'unité et la maturité de l'Église. C'est important de savoir que c'est Jésus qui nous donne l'unité et la maturité de l'Église. On va voir ça ensemble, mais en fait, notre rôle, ça va être ensemble de conserver l'unité. Ensemble de viser à la maturité et ensemble de vivre la vérité. Et je vous invite à ouvrir toujours le livre d'Éphésiens au chapitre 4, donc c'est dans la deuxième partie de votre Bible. C'est la moitié, donc vous passez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, et vous arrivez à Éphésiens. Et si vous avez la même Bible que moi et que vous feuilletez, c'est la page 768. Et je vous propose qu'on puisse lire ensemble les 6 premiers versets. Tu voudras bien les défiler, les versets? Super. Ça feuillette plus trop. Et gardez votre Bible sur les genoux parce qu'on va lire un peu au fur et à mesure. D'accord? Éphésiens 4, verset 1. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Et là, on devrait entendre un grand Amen. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Donc, il parle aux Éphésiens, mais il te parle aussi à toi. Il te dit que tu dois marcher d'une manière digne de l'appel que tu as reçu. Et il y a un mot qui est très important dès le début du verset qui dit « Je vous encourage donc ». Et ce « donc », il nous fait basculer finalement de toute la première partie de l'Épître aux Éphésiens vers la seconde. Dans les premiers chapitres, nous sommes émerveillés de comment la gloire de Jésus-Christ se manifeste dans l'Église, de toutes les merveilles spirituelles qui sont disponibles pour les enfants de Dieu. Vous avez été choisis, aimés avant la création du monde. Vous avez à disposition toutes les bénédictions spirituelles. C'est ce qui nous est dit. Et maintenant, il y a ce « donc » qui fait la transition. Maintenant, il faut le mettre en pratique, les amis. Il y a une cause et il y a des effets. Et de manière simple, c'est vivez de manière cohérente, soyez pratique. C'est bien de savoir des choses, mais c'est mieux de les mettre en pratique. Est-ce que vous avez déjà entendu des personnes qui vous ont dit bah, « t'as qu'à faire ça ou ça, il n'y a qu'à Faucon ». Vous avez déjà vécu ça? Mais vous, vous vous êtes posé la question, lui me donne des conseils, il me dit de faire ça et ça, mais est-ce qu'il le ferait? Vous avez déjà vécu ça? Moi, ça m'est déjà arrivé, ça fait bizarre. Tu dis « c'est moi ou... ». Mais là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que Paul, il est cohérent. Paul, il rappelle bah, « je suis en prison, moi, les amis. Je suis en prison pour l'Évangile. Je suis en prison parce que je vis de manière pratique l'Évangile et la vocation que Jésus m'a donnée d'être témoin partout dans le monde et particulièrement vers les païens, les rois et ainsi de suite. » Paul, il s'est retrouvé devant des rois parce qu'il était en prison. Surprenant, n'est-ce pas? Comprenez que Paul ne regrette pas d'avoir suivi son appel et nous non plus, nous ne devrions pas le regretter. Une vie chrétienne authentique aura nécessairement un prix. Si quelqu'un t'a dit « deviens chrétien », ça sera beaucoup plus facile, il vous a menti. Mais ça vaut la peine parce qu'il y a des bénédictions spirituelles de savoir que Jésus, il est là dans les bons moments, dans les moments plus difficiles, mais aussi qu'on aura une éternité dans sa présence, dans sa paix, dans sa joie. Je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Ben, là, le terme « conduire », en fait, c'est le mot « marcher ». Marcher de manière conforme à l'appel que vous avez reçu de Dieu. C'est-à-dire chaque jour, marcher un pas après l'autre. Soyez saints, soyez des imitateurs de Jésus. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des privilèges, et ça, on s'en rappelle souvent, on peut parler à Dieu, on peut lui demander des choses, mais on a aussi des responsabilités. Tu as des responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. On l'oublie parfois. C'est-à-dire de vivre à la hauteur du salut que nous avons reçu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pas pour mériter quelque chose de plus, mais tout simplement pour être cohérent. Parce que Jésus nous a appelés à être cohéritiers avec de Christ. À quoi ça sert de continuer de vivre dans le péché si nous devons être saints dans la présence de Dieu ? Vocation signifie que nous avons été choisis par Dieu avant même la création du monde parce qu'il a décidé de t'aimer toi pour vivre l'appel de Dieu. La semaine dernière, j'étais à l'école de Montarlot, puis l'école a failli fermer. Bon, on est en train d'attendre qu'est-ce que ça donne. Et il y avait cette question d'avoir plus d'inscriptions pour des enfants. Et on a eu des témoignages de plusieurs personnes qui ont vécu dans cette école primaire. Et à un moment, il y a des personnes qui étaient déjà à la retraite. Et il y a une personne qui a dit, quand j'étais enfant, j'étais dans cette école et c'était super. C'était vraiment le côté famille, on a appris beaucoup, on était chouchoutés. Mais après, tout le reste de mes études, c'était tellement galère. Le collège, les études supérieures, et ainsi de suite. Et pour elle, quand elle le disait, enfin, on sentait qu'il y avait un peu une crispation. Les études, ce n'était pas son truc, c'était vraiment difficile. Et après, elle dit, mais pourtant, j'ai fait le choix de devenir institutrice pour que d'autres aient la même opportunité que moi, le même privilège de pouvoir vivre ça, ce temps d'école primaire. Moi, j'ai été touché. Je me suis dit, mais en fait, ça, c'est vraiment une vocation. Elle a été touchée par un besoin, par quelque chose qu'elle a vécu, et vu que les autres le vivent. Et je me suis dit, mais c'est ça la vie chrétienne. On a cette opportunité d'être enfant de Dieu, de vivre ses privilèges. Et en fait, on a aussi cette responsabilité d'en faire bénéficier d'autres, même si parfois c'est difficile. La vocation d'enfant de Dieu va nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus, même si c'est difficile. Même s'il y a des jours où on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je vous assure que ça m'arrive. Dans les prochaines prédications, nous allons voir que la vocation d'enfant de Dieu, ben, ça touche à plein de domaines différents, mais très pratiques de notre quotidien. On va parler du mariage, de la parentalité, du travail, du combat spirituel. Aujourd'hui, le premier lieu, on va regarder ça, c'est l'Église. Comment exercer notre vocation d'enfant de Dieu dans nos relations, dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église locale. Je ne te parle pas de quelqu'un qui vit à l'autre bout de la planète. Hein. Je parle de quelqu'un qui est là, aujourd'hui, assis à côté de toi. En toute humilité et douceur, verset 2, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et cela se traduit par quatre attitudes et je vous propose qu'on puisse les regarder ensemble. C'est tout d'abord l'humilité. L'humilité authentique, ben, ça nous rend conscient d'abord que de notre petitesse. Ça nous rend capable d'estimer que les autres sont meilleurs que nous-mêmes. C'est l'opposé de la suffisance, l'arrogance, l'orgueil et la suspicion. Jésus est le modèle de cette humilité. Lorsque Jésus, par exemple, dans les derniers instants de, avant ben, sa crucifixion, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux et il lave les pieds des disciples. Alors que les disciples, eux, leur premier souci, c'était « Mais qui sera le plus grand ?» Imaginez juste le choc. Chacun qui est là, « Oui, mais en fait, c'est peut-être moi le plus grand. Moi, je vais être à côté de Jésus dans sa gloire. Et là, je pourrais vraiment être à ma place. » Et qu'est-ce que fait Jésus? Lui, il se met à genoux et commence à laver les pieds. Ça, c'est le choc. Ça, c'est l'humilité. L'humilité, ça consiste à constater son indignité et tendre vers les qualités de Christ. Et là, c'est un exemple clair de comment Jésus nous appelle à vivre. Deuxièmement, c'est la douceur. La douceur se manifeste, et là, je vais vous surprendre peut-être, mais par l'obéissance sans révolte à Dieu. La douceur se manifeste par l'obéissance sans révolte à Dieu. Parce que cela consiste à refuser la méchanceté, bon, ça, on s'en doutait, la vengeance. Et c'est aussi de faire le bien avec la bonne attitude de cœur. Et ce n'est pas anodin, ça peut peut-être sembler simple d'être doux, mais c'est un des signes que Jésus était le Messie qu'on attendait. Il sera doux et humble de cœur. Et Jésus dit en Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » La douceur, dans ce contexte, n'est pas une affection. Ce n'est pas « j'ai envie d'être doux » ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est la volonté de renoncer à ses droits pour d'autres. C'est ça la douceur dans ce contexte-là. La patience. La patience ne veut pas dire être passif. Vous savez, on s'assit dans un bon fauteuil et on se dit « bon, on va attendre que la pluie va s'arrêter, que l'orage se termine ». Non, ce n'est pas ça. Ici, la patience, eh ben, elle prend la forme de la persévérance et de l'obéissance en attendant les promesses de Dieu. Et là, je pense que les exemples qu'on peut trouver, c'est par exemple dans l'Ancien Testament. C'est souvent cité dans le Nouveau Testament, ces exemples de l'Ancien Testament, parce qu'ils ont été patients, parce qu'ils ont été endurants. Et par exemple, on retrouve le prophète Jérémie. Dieu lui dit dès le début de son ministère, « Il faudra que tu parles pour moi. Personne ne te croira, mais au contraire, tu seras haï, injurié, persécuté. » Et tu vas vivre des circonstances très difficiles. Mais tu dois faire ta vocation de prophète. Tu dois être mon porte-parole. Tu dois les appeler à revenir à moi, à vivre de manière cohérente, comme mon peuple. Qu'est-ce qu'a fait Jérémie? Il a fait ça, même si c'était difficile. Chaque jour, c'était difficile. Chaque jour, il se prenait des coups de bâton. Et ça, c'est dans le sens de se supporter. De la patience et de s'attendre aux promesses de Dieu et qu'il agisse, même si c'est difficile, de faire ce que Dieu nous demande à nous. Donc, vous en faites pas. J'espère pour vous et pour moi qu'on n'est pas des Jérémie. Mais il y a des temps comme ça. Vous retrouverez Abraham, vous retrouverez Moïse et ainsi de suite. Ils sont dans l'attente de l'intervention de Dieu. Et ce qu'il leur est demandé, c'est d'être persévérant, obéissant. Enfin, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et supporter, parfois, on le voit un peu comme des supporters du PSG, donc c'est pas ça. Donc c'est pas de faire des hola, bon, on peut le faire, hein, ça encourage, mais là c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt d'être indulgent avec amour. 1 Pierre 4:8 dit que l'amour couvre une grande multitude de péchés. Et moi, à un moment, je me suis dit bon, c'est un peu bizarre ce verset. Est-ce qu'il faut aimer puis Dieu ne voit plus nos péchés? Non, c'est pas ça. En fait, c'est dans le sens où Si nous aimons, ben, l'amour couvre une grande multitude de défauts. L'amour, ça veut dire qu'il va nous amener à être indulgents envers les autres. Ça nous donne la force de supporter ce qui nous dérange chez les autres. Je sais pas qu'est-ce qui vous dérange chez les autres. C'est peut-être parce que certains, vous savez, quand ils mangent, ils font du bruit. Certains, ils ronflent et vous êtes obligés de dormir avec eux. Mesdames, ne vous tournez surtout pas. Nadia, ferme les yeux. Certains, par exemple, moi, il y a quelqu'un, à chaque fois que j'envoie un mail groupé d'informations, il me téléphone. Mais dans les 5 minutes qui suivent, souvent, je prends déjà le téléphone en main. Et en fait, je me dis, à chaque fois, je me dis, bon, je vais passer encore une demi-heure. C'est pas quelqu'un de l'église, hein, rassurez-vous. téléphonez-moi, il n'y a aucun souci. Mais, et après, finalement, il me raconte, et puis on s'encourage tous les deux, et c'est super chouette. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, quand j'envoie le mail, il faut que je prévoie une petite demi-heure où je suis tranquille. Mais il y a des choses comme ça, et sur le moment, on se dit, bon. Et après, on se dit, ouais, ben, là, j'étais ben, un enfant de Dieu, j'ai aimé, et j'ai écouté, j'ai encouragé. Il m'a encouragé aussi. Et j'imagine que l'on souhaiterait tous vivre l'unité. Être tranquille, hein, finalement, ça évite les conflits, ainsi de suite. Être des chrétiens cool, vous savez, des chrétiens où ça va. Ouais, c'est relativement facile quand ça se passe bien. Mais dans l'église justement, c'est pas toujours ça. Hein. Vous connaîtrez des tensions, vous connaîtrez des incompréhensions. Vous pensiez faire le bien, c'est pas bien passé, c'est mal compris. Il y aura même des conflits dans l'église, vous vous rendez compte? Bon, pas ici, hein, bien sûr. Mais c'est là où c'est intéressant de se rappeler que autant de pécheurs qui sont graciés, qui vivent en proximité, bah, ça va nécessairement faire des étincelles à un moment ou à un autre. Parfois, on s'y attend pas, hein, je vous le dis. Mais pourtant, dans cela, on peut aussi marcher de manière digne de la vocation d'un enfant de Dieu et faire ce choix d'aimer concrètement les membres de notre église locale. Et même lorsque c'est difficile, ben de se dire, ben, je m'attends à toi, mon Dieu, pour aimer de manière concrète, en passant du temps avec les uns et les autres, en se disant la vérité, en s'encourageant. Et je pense que ce qui nous aide en cela, c'est de voir les autres comme plus grands que soi. Cela nous conduira à être moins focalisés sur les défauts de l'autre, mais de déjà constater nos défauts à nous. On sera beaucoup moins sensible à ceux des autres. On sera aussi, je pense, beaucoup plus indulgent et patient parce que nous connaissons, nous, nos propres combats lorsqu'on fait un peu ce travail de dire où j'en suis, moi, aujourd'hui avec Dieu, où j'en suis dans ma vocation d'enfant de Dieu. Enfin, verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Paul ne demande pas à l'Église de créer l'unité, mais de la conserver. Et ça, je pense, c'est une vérité biblique qui est très importante pour nous, parce que sinon, on risque de se fatiguer pour rien. Nous ne pouvons pas fabriquer l'unité par nous-mêmes. Tu peux faire autant d'efforts que tu veux, tu peux faire des team building, plein de choses comme ça qui se font en entreprise, ça ne marchera pas dans l'église. Enfin, ça peut être des outils. Hein. Mais dans l'église, on a quelque chose de vraiment particulier, et c'est une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà l'unité parce que c'est inclus dans ton pack enfant de Dieu. Donc quand tu as des doutes, tu ouvres ton sac et tu dis, donc dans ton sac, il y a ta Bible et tu dis, ouais, je suis enfant de Dieu, Jésus m'a déjà donné l'unité. Et justement, en Jean 17, 22, c'est quelques instants avant que Jésus aille à la croix, il fait cette prière pour toi et pour moi et pour notre église ici. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Donc c'est Jésus qui parle à Dieu. Hein. Afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et je crois que si Jésus a fait cette prière, c'est que cette prière, elle est accomplie. Et Jésus rajoute justement encore à la fin de cette prière que c'est pour tous ceux qui suivront, donc pour nous ici aujourd'hui, en Seine-et-Marne. Mais soyons pas hypocrites, l'Église n'est pas la maison des bisounours, mais par contre, l'amour de Dieu peut y régner. L'amour de Dieu est là et nous amène à cultiver cette unité. Si nous lisons la Bible, nous nous rendrons compte que même des personnes qui sont hautement inspirantes n'ont pas toujours été au niveau. Vous prenez par exemple Paul et Barnabas. Ils se sont séparés, ils ont fait tout un voyage missionnaire, ils ont implanté des églises, ils ont vu des conversions, ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses extraordinaires, et ils se sont séparés. Ils se sont séparés parce qu'ils n'étaient pas d'accord concernant un gars qui s'appelle Marc. Marc, il avait quitté l'équipe missionnaire et Paul ne voulait pas que Marc revienne dans l'équipe suite à son abandon. Mais Barnabas, lui, a voulu le réintégrer dans l'équipe pour le relever. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a clashé. Au final, Marc est parti avec Barnabas. On aurait pu se dire, mais tout est fichu. Mais au final, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Au final, Marc, il a rédigé l'évangile selon Marc, qui est considéré comme l'un des plus anciens évangiles. Paul, à la fin de sa vie, il demande à Timothée de prendre Marc avec lui parce qu'il est précieux pour l'œuvre de Dieu. Et c'est là que c'est bon de se voir qu'il peut y avoir des moments où on est malmené, des moments où ça ne va pas comme on veut, des moments où il se passe des trucs qui ne sont pas normaux, mais Dieu, il relève. Nous, on peut être de ces personnes qui se laissons appeler par Dieu pour se repentir, pour revoir nos positions, pour regarder à la lumière de Dieu qu'est-ce qu'il veut pour nous. Parce que c'est bon de se rappeler que si Jésus, quand nous on s'éclate au sol parce qu'on a trébuché, il nous laissait comme ça, je t'assure que la salle, elle serait vide aujourd'hui. Hein. Mais soyons de la même façon des personnes qui relèvent ceux qui chutent, des personnes qui encouragent à reprendre le chemin de la vie chrétienne. Conserver l'unité, c'est par moments un vrai combat. Et parfois, justement, il y a des moments où c'est plus difficile, des moments où on chute. Mais c'est l'occasion justement de nous remettre en question, de nous relever, de nous pardonner les uns les autres et surtout d'aller de l'avant. Pas rester sur des vieux trucs parce que c'est perdre notre temps et notre énergie sur des choses qui n'en valent pas la peine. Ce qui en vaut la peine, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, qui a été crucifié, torturé, qui est ressuscité, qui nous attend dans cette vie éternelle et cette vie chrétienne qui a du sens et qui est abondante aujourd'hui déjà. La marche chrétienne, c'est l'objet de toute une vie, pas après pas, et ce n'est pas un sprint. Et ce qui va conserver l'unité, il est dit que c'est la paix. Et la paix, c'est pas juste fiche-moi la paix, c'est pas ça. C'est savoir que nous sommes en paix avec Dieu, que nous sommes plus rebelles à Dieu. Et alors, quand on sait qu'on est en paix avec Dieu alors qu'on le mérite pas, ça nous aidera à être en paix avec nos frères et sœurs. Notre limite à l'unité dans l'Église, comprenez bien que c'est pas nous-mêmes en disant c'est mon caractère, tu sais, moi je suis colérique, puis je suis rancunier, puis on reste comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas non plus parce que y a un voisin qui est un peu moins aimable qu'un autre, ou peut-être parce qu'on a vécu des choses difficiles dans notre passé. Et je veux pas minimiser ça, loin de là. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans l'Église, et je le comprends et je peux comprendre les souffrances. Mais je pense aujourd'hui, c'est vraiment cet appel à regarder à Christ, pas regarder à notre passé, mais regarder à ce que Jésus veut pour moi aujourd'hui. Jésus, lui, il est le même. Et ça nous est bien rappelé au verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Et là, il y a cette remarque que je voudrais faire avec vous. Il y a un seul corps qui est indissociable et formé de tout, les enfants. Un seul esprit qui nous identifie comme enfants de Dieu et qui nous guide pour vivre en tant que tel, comme un enfant de Dieu. Troisièmement, c'est une espérance du retour glorieux de Christ et d'être dans sa présence pour l'éternité. Quatrièmement, un seul Seigneur, chef de tous, roi de tous, à qui je veux obéir. Cinquièmement, une seule foi centrée sur l'évangile de Jésus-Christ et pas sur des choses annexes. Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour que nous soyons dans la présence de Dieu. Sixièmement, un seul baptême, pour nous associer publiquement à la mort et la résurrection de Jésus, pour être un enfant de Dieu identifié, mais aussi pour être identifié en tant que membre de l'Église. Septièmement, un seul Père, dont nous sommes tous ses enfants. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces quelques mots, mais je voudrais juste rester sur quelques points. Il y a différentes personnes qui sont tous aimées de Dieu, choisies par Dieu, et vous pouvez tous apporter quelque chose à l'Église, à la façon dont Dieu veut vous utiliser ici. C'est tous, donc chacun a sa place, chacun est nécessaire. Et enfin, Il y a aussi cette question de savoir si on fait partie de l'Église ou pas. Et je pense que c'est vraiment une question à se poser. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est mon Église locale? Est-ce que c'est parce que je m'assieds régulièrement à la même place? Est-ce que c'est parce que je viens depuis des années ou parce que je suis dans une liste quelque part? Ou c'est parce que concrètement, je sais que c'est là où Dieu m'appelle à prendre soin des frères et des sœurs, les aimer concrètement, les connaissant, en vivant avec eux, en adorant Dieu ensemble, en partageant ce témoignage aux autres. C'est ça la vision biblique d'une église locale. Et enfin, je pense que ça, c'est un appel, je pense, à plusieurs avec qui on a pu évoquer cette question dans les dernières années, les derniers mois. Et question aussi du baptême. Un seul Dieu, un seul Père, un seul Esprit, un seul baptême. Le baptême, c'est une étape importante de la vie chrétienne, c'est même le démarrage de la vie chrétienne. C'est une façon de s'identifier clairement comme un enfant de Dieu, comme un membre de l'Église. Et je veux vraiment nous encourager, et je pense qu'il y a plusieurs qui sont concernés par cela, à ne pas repousser cela indéfiniment. Ce n'est pas le fait d'être parfait, on le voit bien ici, qui fait qu'on peut se faire baptiser, mais c'est le fait de dire, je veux être un enfant de Dieu, je veux vivre en tant que tel, je veux m'associer à cette démarche-là. Et je vous encourage vraiment à faire cette démarche-là, que vous soyez plus jeune, moins jeune, et ainsi de suite, en toute humilité, de dire, si Jésus il est mort pour moi, si même Jésus il a fait ce choix de se faire baptiser pour me montrer l'exemple, qu'est-ce qui, moi, pourrait être un obstacle à me faire baptiser? Je crois vraiment que c'est le temps pour plusieurs d'entre nous de prendre maintenant position, simplement en étant cohérent avec notre appel, notre vocation. C'est tellement dommage de laisser ces questions-là être une sorte de boulet dans notre marche chrétienne. Donc, peu importe l'âge que tu as, pose-toi vraiment cette question-là. Est-ce que je veux vraiment vivre comme un enfant de Dieu? Est-ce que je suis prêt à faire ce premier pas de la vie chrétienne? Donc, vous allez voir, vous voyez, conserver l'unité, ce n'est pas toujours facile, ça nécessite des efforts, mais comprenez que ce n'est pas seulement d'être suffisamment conciliant face aux difficultés, mais c'est vraiment d'être proactif. Il ne faut pas attendre d'avoir des difficultés pour se dire que c'est là que je vais être, que je vais montrer de l'amour, d'être patient, doux, et ainsi de suite. C'est avant déjà qu'il faut commencer, parce qu'il y aura forcément ces temps-là, je vous rassure. Mais c'est aujourd'hui, comment on fait pour manifester cela? Je pense que ça commence par se connaître et s'aimer, favoriser une meilleure communication, une compréhension mutuelle, se poser la question quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas dans nos vies, nous encourager à y remettre de l'ordre, mais ça, on peut seulement le faire quand on se connaît. Si vous allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous lui dites « mais avant, tu as dit trois gros mots », je vous assure que ça ne passera pas. Par contre, si vous passez un peu de temps régulièrement avec lui, tu lui dis « peut-être tu ne remarques pas, mais j'ai remarqué que parfois tu dis des gros mots et je pense qu'il y a peut-être quelque chose où on pourrait tous les deux prier pour ça et puis s'encourager. » C'est un exemple, Mais je pense qu'on a besoin de se connaître pour vivre cela. On a besoin de se connaître pour être de la même famille. C'est pour ça aussi qu'il y a des choses qui sont organisées par l'Église pour faciliter ça, que ce soit des groupes de maisons, des lieux où on se retrouve pour se connaître, prier les uns pour les autres, partager nos luttes, nos combats, aussi nos encouragements. Ça peut être les groupes de vie, groupes d'hommes, groupes de femmes, groupes de jeunes, et ainsi de suite. C'est des lieux où on parle de la vie concrète, la vie chrétienne, comment on fait pour la vivre. Parce que tout seul, on va nécessairement être limité, mais si on est ensemble, on va avancer ensemble. Et aussi, il y a des temps, où, comme par exemple cette semaine, c'est la semaine ouverte, c'est une semaine où c'est notre responsabilité individuelle de prendre nos responsabilités. Ce n'est pas toujours l'Église qui pourra tout faire à notre place, et loin de là, si vous attendez juste que l'Église vous fasse tout, ça ne marchera pas. Par contre, cette semaine, je peux prendre ma responsabilité de dire à quelqu'un, tiens, on va prendre un café ensemble, on va faire une balade ensemble, on va manger ensemble. Ce n'est pas le Covid qui doit être un frein dans tout cela. On arrive bien encore à aller manger, à aller dans des supermarchés, à aller chez nos collègues, aller au travail. Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à vivre l'Église? C'est pour ça, ensemble, conservons l'unité. Je crois qu'on va faire comme les autres fois. Il y a trop de choses dans Éphésiens, je ne vais jamais arriver à faire une prédication entière. Mais je vous propose qu'on puisse prier ensemble et qu'on puisse vraiment demander à Dieu de pouvoir concrètement vivre l'unité, vivre des relations fraternelles, vivre et expérimenter sa paix, sa joie, sa douceur, lui ressembler de plus en plus. C'est un grand programme, ça peut être effrayant, mais on veut se rappeler qu'on ne veut pas y aller avec nos propres forces, on veut y aller avec cet amour que Dieu nous donne, guidé par son Saint-Esprit. Est-ce qu'on est disponible pour que Dieu nous parle? Est-ce qu'on est disponible pour aller là où peut-être on n'aurait pas cru que c'était possible? Et je vous propose de prier ensemble. Je propose de peut-être prendre 2 minutes juste pour réfléchir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est un frein dans ma vie chrétienne? Qu'est-ce que j'ai besoin de remettre à Dieu et de dire « ça, ça t'appartient ». Je veux me rappeler qu'il y a un seul chef et c'est toi, c'est pas moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret que je peux faire et mettre dans mes habitudes de semaine pour vivre l'Église et l'unité comme ça nous est présenté ici dans ces versets? Est-ce que j'ai peut-être besoin on l'a chanté déjà, demander pardon, peut-être de mon attitude, mais peut-être aussi de mon manque d'intérêt pour l'Église, de mon manque d'intérêt peut-être pour des frères et sœurs. Je propose juste qu'on prenne 2 minutes, hein, pour que chacun puisse y réfléchir, peut-être se positionner devant Dieu, peut-être il y a une personne qui a besoin aussi de prendre une décision pour Christ ce matin, hein, dire voilà, je veux vraiment être un enfant de Dieu, être cohérent. Je veux aussi me faire baptiser. Je vous propose de prendre ce temps seul avec Dieu et de faire ce temps où Dieu peut nous sonder en profondeur dans nos cœurs. Oui, Père, on veut être tellement reconnaissant envers toi parce que tu as fait ce choix de nous aimer, de nous choisir, de nous adopter pour être tes enfants, pour que nous vivions avec l'éternité dans ta présence. Nous n'avons rien pour te plaire, mais tu as décidé de nous aimer. Tu as décidé de nous choisir pour qu'on puisse être cohéritiers de Christ, être tes enfants, travailler à ta gloire dans notre quotidien, mais aussi pour toute l'éternité, dans tous les gestes du quotidien, dans nos pensées, dans nos actions. Et je te prie vraiment que ce matin, tu ne nous laisses pas ressortir de ce lieu comme on y est rentré, que à chacun d'entre nous, tu puisses avoir un message personnel, que tu puisses t'adresser à chacun d'entre nous pour nous encourager à tout te confier, que tu sois notre Père, que tu sois celui qui est la source de toute notre espérance, que tu sois celui qui motive toute notre vie. Et je te prie, s'il te plaît, que on puisse vraiment marcher de progrès en progrès pour te ressembler davantage, aussi avoir la maturité nécessaire pour accomplir tes desseins dans notre quotidien, dans notre Église, dans cette région. Je te prie, s'il te plaît, d'ôter tout ce qui a un boulet, tout ce qui ralentit notre marche chrétienne, mais que nous puissions vraiment être libérés pour t'adorer, te servir, disponibles pour toi et ton service. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, vraiment que ce matin, tu puisses poser des jalons forts dans notre vie d'Église pour que nous puissions te suivre. Même si par moments c'est un peu difficile, nous voulons te suivre et ce que nous voulons déclarer ensemble en tant qu'Église. Je te prie particulièrement pour ceux qui sont peut-être en train de mener un combat parce qu'ils savent dans quel domaine ils ont besoin de te laisser avoir toute la place, toute l'autorité. Et je te prie, s'il te plaît, que tu leur donnes la force nécessaire pour abandonner cela à toi. Je te prie ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour notre Église, pour qu'elle soit cette Église que tu désires, qui est sainte et glorieuse, et qu'elle soit une démonstration de ton amour pour le monde. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.